Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui, et comme tous les mois, avec Viviane Lipskier. Bonjour Viviane.
Bonjour Adrien.
Pour rappel, hein, quand même, hein, tu es la fondatrice de Brand Alchimie, l'experte d'NVB en France, et tu accompagnes les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer. Et tu es l'auteur du célèbre livre « Les DNVB, les surdoués du commerce digital ».
Oui, c'est tout à fait ça. Et il faut quand même dire aussi qu'au quotidien, la majeure partie de mon travail, ça consiste à accompagner la naissance de DNVB.
Exactement. Et donc le sujet du jour, parce que chaque mois on traite d'un sujet en particulier dans le merveilleux monde des DNVB,
ouais.
Et aujourd'hui le sujet c'est comment les DNVB intègrent le packaging pour créer une expérience de marque unique, c'est ça ?
Ouais, DNVB, alors pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être écouteraient pour la première fois, Digitally Native Vertical Brand, donc c'est start-up technologique qui font des produits physiques et qui intègrent donc un business model dit de DNVB, donc essentiellement sur le digital, toute l'expérience se passe essentiellement sur le digital et avec un business model dit verticalisé ou de raccourci en fait. Alors pour aujourd'hui, donc maintenant que j'ai redonné la définition pour ceux qui nous rejoindraient, on ne sait jamais, pour aujourd'hui, oui, j'ai décidé de parler du packaging, c'est-à-dire, alors ce dont je vais parler, c'est de la boîte d'emballage, le carton d'expédition et expliquer pourquoi ça fait partie du marketing mix. Alors, je parlerai pas du contenant lui-même. Le contenant lui-même, ça s'appelle le pack primaire. C'est ce qui protège le produit des contacts extérieurs. Par exemple, ton tube de dentifrice ou ton pot de yaourt en verre ou en carton ciré ou en plastique. Peut-être encore ton sachet qui va contenir tes chips. Non, ça, c'est l'emballage primaire. C'est ce qui contient le produit fini et qui est la dernière ligne de défense entre le produit et le monde extérieur. C'est pas ça dont je veux parler. Pour la cosmétique, par exemple, c'est le boîtier, le flacon, le tube, parce que c'est des problématiques vraiment extrêmement complexes. Non, en fait, je parlerai pas non plus de ce qu'on appelle l'étui ou emballage secondaire, qui, alors, si tu reprends l'exemple du pot de yaourt, ben, ça serait le carton qui emballe les 4, 8 ou 12 pots, tu vois. Et si une tablette de chocolat, l'emballage primaire, c'est le film aluminium. Et puis, l'emballage secondaire, c'est le papier qui enrobe l'aluminium. Mmh. Je parlerai pas non plus d'emballage tertiaire. Alors, lui, l'emballage tertiaire, c'est celui qu'on voit normalement jamais, sauf si tu vas dans un magasin low cost ou un supermarché en sous-effectif, tu vois. C'est l'emballage qui entoure la grosse palette. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la boîte d'emballage ou l'enveloppe d'expédition, le support rigide qui protège les produits du transport. Et ça nous intéresse parce que c'est le reflet de l'entreprise dans son environnement extérieur.
Donc ce sujet, en fait, il intéresse tous les acteurs du e-commerce et pas seulement les DNVB.
Oui, tu as raison, c'est vraiment un sujet global. À commencer par les acteurs chinois avec et toutes les problématiques qui sont liées au succès de la journée des célibataires, qui est devenu le plus grand festival de shopping du monde. À lui seul, il a généré 30 milliards de dollars le 11 novembre 2018, c'est-à-dire supérieur au PIB de l'Islande.
Et ça vient d'où cette idée à l'origine ? Pourquoi avoir choisi le 11 novembre ? Il y a quelque chose à voir avec le Black Friday ?
En fait, aux États-Unis, le Black Friday, ça désigne le lendemain du repas du jeudi de Thanksgiving. Donc, c'est le grand jour de solde qui lance les achats de fin d'année. Et l'histoire du Black Friday, ça remonte aux années 30. Ça a été instauré dès la fin du Thanksgiving par les commerçants pour redynamiser l'économie post-dépression. Et on l'appelle Black Friday, selon la légende urbaine, parce qu'il y a plein d'histoires qui tournent autour de légendes qui tournent autour de ce nom, mais a priori, ça serait parce que les policiers font des heures sup ce week-end festif, donc qui est pas très festif pour eux. Et en fait, c'était à la base, c'était un jour de départ d'une période de solde, et puis maintenant, c'est devenu... en fait, ça part du week-end de novembre et ça va jusqu'aux fêtes de Noël. Et c'est l'occasion pour les magasins de vider leur stock, d'attirer un maximum de clients. Et en France, le Black Friday, on a l'impression que ça existe depuis des années maintenant, mais ça remonte que à 2014. Et figure-toi que le grand gagnant en France du Black Friday, c'est Amazon, pour ceux que ça intéresse.
Bien sûr.
Alors que la journée des célibataires, ça, c'est une invention qui est moderne. En fait, encore plus moderne, c'est à l'origine, c'était alors c'est le 11 novembre parce que en fait les quatre un aligné, ça fait comme un code barre, en fait. Tu vois, quatre bâtons comme ça. Et code barre, en chinois, en fait, ça veut dire ceux qui n'ont pas de relationship, ceux qui n'ont pas de petits copains ou de petites copines ou qui ne sont pas engagés, en fait.
D'accord.
Donc déjà, l'idée, ça part de ça pour la date. Et puis, ça a commencé dans les années 90 sur les campus des universités chinoises où on célébrait les célibataires. Et c'est Alibaba qui a récupéré l'idée en 2009 et puis qui l'a transformé en une journée de promotion qui était d'abord, c'était une journée centré sur soi, sur le fait d'être célibataire, et ça a évolué à un truc complètement différent. C'est devenu un festival de shopping qui dure 20 jours avec une grosse montée en puissance jusqu'au 11 novembre justement, avec c'est comme un immense compte à rebours qui est planifié avec une précision militaire. Et ce qu'il faut que je te dise, c'est que c'est plus du tout un événement qui est chinois, maintenant c'est devenu mondial, parce que Alibaba il fait des ventes monstrueuses à ce moment-là. Cette année, par exemple, il y aura 6 pays d'Asie du Sud-Est qui vont participer à ce qu'on appelle maintenant le double 11, le Vietnam et la Thaïlande. Et bien sûr, les promotions, elles ciblent aussi les millions de consommateurs chinois aux États-Unis et en Australie via AliExpress, la plateforme de livraison.
D'accord. Alors, j'imagine que le corollaire du record de vente, c'est que il y a plein de colis pardon à expédier.
Ouais, c'est ça, parce qu'on focalise toujours sur le record de vente. Tu vois, ils battent leur record d'une année sur l'autre, mais c'est vrai que le corollaire, c'est qu'il y a des, comme tu le dis exactement, c'est qu'il y a des colis à expédier. Et l'année dernière, ils ont dépassé le milliard d'envois selon Reuters à Shanghai. Donc, il y a 38 milliards de dollars dépensés par les consommateurs. Plus d'un milliard d'envois, ça a complètement inondé les services postaux et messageries. Selon donc Reuters, 331 millions de colis, t'imagines pas ? Ça veut dire 160 000 tonnes de déchets d'emballage, du plastique, du carton et des rubans, presque 10 milliards de boîtes d'emballage et assez de rubans adhésifs pour faire le tour du monde, plus de, à ton avis, 400 fois. Donc bon, c'est monstrueux, tu imagines la montagne de déchets produits en une seule journée.
C'est horrible.
Donc la colère des environnementalistes, à juste titre d'ailleurs. Et Ni Li, qui est le responsable de la campagne Greenpeace sur les produits toxiques, dit une surconsommation record, il faut pas perdre de vue que c'est un gaspillage record aussi. Ça entraîne une augmentation des émissions carbone qui proviennent de la fabrication, de l'emballage, du transport maritime aussi. Et dans un rapport qu'il a publié il y a pas très longtemps, il a dit que Greenpeace a estimé que les commandes de l'année dernière ont produit 52 400 tonnes de dioxyde de carbone supplémentaire. Donc tout ça pour le réchauffement climatique, c'est pas très très bon. Donc évidemment qu'ils ont des tactiques, tout le monde, je vais pas dresser les uns contre les autres, tout le monde essaye de trouver de résoudre le problème et de remplacer les boîtes en carton. En Chine, ils utilisent maintenant des grands bacs en plastique qu'ils mettent dans des lieux, des lieux de collecte, et que c'est réutilisable, etc. Ils privilégient maintenant aussi les sacs biodégradables, etc. Mais évidemment que c'est pas suffisant. Et puis, si tu regardes globalement, donc au-delà de nos amis chinois, le volume des colis a plus que doublé dans les 5 dernières années. Et c'est proportionnel à l'émergence du e-commerce, la croissance du e-commerce, donc avec une croissance de plus de 17%. Et Pitney Bowes prévoit que le transport maritime mondial dépassera 100 milliards de colis d'ici 2020, 200 milliards d'ici 2025. Donc, c'est au moment où les recettes du commerce s'accroissent, il faut aussi gérer cette problématique des packaging, des colis et des déchets. On estime que juste en transport de colis, les recettes mondiales sont à hauteur de 119 milliards de dollars. Donc, c'est une vraie industrie en soi.
Et les DNVB dans tout ça, quel rôle elles jouent et puisqu'elles aussi, elles expédient leurs colis, comment elles s'y prennent ?
En fait, justement, l'arrivée des nouvelles marques Direct to Consumer et des NVB a coïncidé avec la prise de croissance de l'impact environnemental. L'empreinte carbone de l'expédition, c'est une préoccupation pour de nombreuses DNVB qui sont soucieuses de développement durable. Mais évidemment, on comprend bien que l'expédition elle-même, c'est pas à l'éliminer, c'est pas une possibilité en soi. Donc, il faut explorer d'autres moyens.
Non, impossible.
D'améliorer l'efficacité de l'expédition. Alors, il faut qu'elles puissent continuer à expédier un volume de plus en plus élevé de produits sans pour autant compromettre les valeurs de leur marque. Alors, pour certaines, j'ai noté quand même que le e-commerce était même le moyen de promouvoir l'économie circulaire. C'est le cas de Cézanne, par exemple, dans ses boîtes d'expédition, avec ses messages. Elle fait la promotion à l'intérieur de ses cartons aujourd'hui, là, ce mois-ci, au mois d'octobre, avec un message très clair autour de l'économie circulaire. Et le message est inscrit au fond du packaging. C'est le cas aussi de Dollar Chef Club. Amy Corman, c'est l'ingénieur en conception d'emballage de la marque. Donc, ils ont une ingénieure emballage dédiée en interne. Et elle ne fait que travailler à de nouvelles solutions pour que les clients puissent retourner les contenants usagés et les remplissent à nouveau avec des produits et travailler aussi sur les packs d'expédition. Et elle dit qu'il y a pas mal de façons d'être respectueux avec l'environnement. Elle donne en exemple, de faire les packaging les moins gaspilleurs possibles en termes de matériaux, c'est-à-dire les mieux ajustés possibles à ce qui est expédié. Donc, pas des grandes boîtes à moitié vides calées par des chips ou par toute autre forme, tu vois, de plastique. Donc, tu réduis les déchets en choisissant la bonne boîte pour une commande donnée. C'est-à-dire que tu as différents types de packaging pour différents types de commandes. Ce qu'elle préconise également, c'est de rapprocher les plaques tournantes, c'est-à-dire les plaques logistiques, des clients finaux pour que les camions passent moins de temps sur la route et aussi de regrouper tant que possible les articles en une seule commande chaque fois que c'est possible. Ce qui est aussi une nouvelle tendance que je vois émerger, un petit peu moins en France, c'est d'optimiser le retour en prévoyant dans le colis d'expédition une enveloppe légère, pré-payée, qui permettra de gérer les retours. Tu vois, une petite pochette de réexpédition très légère. Donc, ça, c'est une pratique qui peut être facilement introduite qui non seulement a des bénéfices sur réduit, on va dire, le coût en termes de responsabilité, mais qui réduit aussi, qui a un impact sur les résultats financiers de la marque, finalement. Parce que si tu réduis tes emballages, si tu les ajustes mieux, ça, c'est la politique d'Amazon, tu sais, ils coupent toujours le packaging autour, si c'est un livre, ils couperont le paquet autour de la forme du livre. Il n'y a jamais de sur-packaging. Et puis, de réduire les temps de transport, c'est pareil, ça contribue à des meilleurs résultats financiers. Et d'ailleurs, et aussi, d'une même, certaine manière, à la satisfaction des clients, puisque plus tu livres vite, et plus les clients, c'est déterminant dans la décision d'achat des clients, d'ailleurs. Donc, rapprocher les stocks des consommateurs, c'est aussi une bonne idée.
Chez Réuni, typiquement, on va utiliser une marque qui s'appelle Repack. Et c'est un packaging qui est réutilisable. C'est-à-dire que les gens, ils vont recevoir leur gros pull d'hiver dans ce Repack. Et ils pourront, et ils devront, enfin, idéalement, il faut qu'ils le fassent, c'est qu'ils reglissent cet emballage plié comme il faut dans une boîte aux lettres renvoyé sur une plateforme de collecte qui s'appelle Repack. Et on peut réutiliser ce packaging 10, 15, 20, 30 fois. Et quand il est out of service, il recycle et ils refont un nouveau packaging. Donc là, on est vraiment sur de l'économie circulaire. Et je trouve que ça a beaucoup de sens et ça rejoint vraiment ce que tu es en train de nous raconter.
Mais la nuance, c'est que est-ce que tu peux le personnaliser, ton Repack ?
Aujourd'hui, on ne peut pas le personnaliser.
Oui, alors du coup, on en vient à la question suivante, c'est-à-dire que le packaging, effectivement, c'est un paquet d'expédition, mais c'est aussi un outil de communication. Et en fait, si tu regardes bien, les DNVB, elles ont souvent des boîtes qui sont très soignées, avec des effets très différenciants, parce qu'au-delà de la responsabilité écologique, en fait, l'autre enjeu, tu vas le voir bientôt, c'est la visibilité. Donc,
bien sûr.
C'est vrai qu'elles ont tendance à travailler le graphisme, l'image de marque, et surtout, on va le voir là, l'expérience liée au déballage. Parce que quand tu es dans le monde physique, la première chose que tu vois sur un rayon, c'est le packaging, en fait, ce qu'on appelle le packaging primaire, justement, ou secondaire, si tes yaourts sont emballés par 6. Et ça, c'est ce que tu vois directement sur les rayons du magasin. Mais quand tu es un client du e-commerce, la première chose que tu vois, ta première bonne impression, c'est ta boîte d'expédition. Et c'est ce que dit Amy Corman, d'ailleurs. Elle dit, le déballage, c'est la nouvelle présence en rayon. Tu vois ?
C'est ta relation avec la marque.
Exactement. Et donc, la présentation du produit au moment où le consommateur ouvre la boîte, c'est essentiel. Après, si ça ne fait pas partie de tes valeurs et que tu considères qu'il vaut mieux envoyer, parce que tes valeurs sont vraiment d'être, radicalement sustainable comme Everlane, qui encore soigne ses packagings, mais disons dans cette mouvance, et que tu préfères être économique, à toi de faire ton choix justement, et de faire ta balance entre qu'est-ce qui est over en termes de marketing et par rapport à tes valeurs et de faire le choix justement entre quelques, tu vois. Mais c'est quand même, il faut pas négliger l'importance. C'est quand même assez essentiel d'avoir un packaging qui reflète à l'extérieur l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ?
Bien sûr.
Et donc, c'est vrai que garder cette cohérence, ça, je t'incite vraiment à garder ta cohérence et à trouver la bonne balance entre esthétique et fonctionnalité. Alors, chez Dollar Chef Club, la priorité, bon, comme chez tout le monde, c'est le produit, absolument. Et ensuite, c'est vrai que la fonctionnalité de l'emballage, ça vient en deuxième. Et puis après, l'esthétique. Donc, c'est plutôt assez minimaliste. En revanche, j'ai trouvé un exemple excellent. C'est chez Monsieur M.M. Lafleur, pardon. C'est une DNVB qui propose un vestiaire par abonnement. Donc, tu as les vêtements et les accessoires. Tu peux avoir les ceintures, les bijoux, etc. Mmh. Et depuis le début, ils ont adapté le concept de la bento box. Donc, tu vois, le bento box, c'est un petit coffret où il y a tout ton déjeuner qui est séparé, une petite boîte super mignonne en général, avec des petites alvéoles, et puis tu as tous tes petits plats, tu les manges dans l'ordre que tu veux. Et ils ont totalement transposé ce concept pour leur packaging, ce qui les rend absolument uniques. Donc, quand tu reçois ta boîte, déjà, c'est une boîte qui est assez grande, puisque c'est censé être ta tenue, composer plusieurs tenues pour le mois. Donc, c'est pas de la location, hein, c'est vraiment de l'achat. Donc, ta boîte, c'est une boîte en carton craft qui est hyper soignée, très classe et qui, globalement, ressemble à une petite valisette. Tu vois, elle est facile à porter, il y a une petite poignée. Si jamais tu vas la chercher à un relais colis, etc., c'est sympa à porter, en fait, visuellement. Et le pliage est hyper soigné, il n'y a pas de scotch apparent. Et sur la poignée de la valisette, tu trouves l'URL du site de la fleur. Il y a un gros logo sur toutes les faces, on est bien visible dans la rue quand tu te déplaces avec. Ce que je trouve habile aussi.
Publicitaire sur Pat.
Ouais, exactement. Ce que je trouve assez habile aussi, c'est que, parce que c'est pas toujours évident de se travailler avec un gros colis, tu vois, de là où tu vas le chercher chez toi. En général, t'es assez encombré, donc c'est malin de l'avoir prévu. Et du coup, ça facilite la lecture du gros logo. Et ils ont aussi prévu l'emplacement de l'étiquette d'expédition, qui est souvent collée n'importe comment, tu sais, toute décalée, etc. Là, il y a un emplacement qui est bien marqué. Du coup, c'est toujours au même endroit. Ça pollue pas le logo. Et c'est placé correctement et proprement. Ça, j'apprécie aussi.
T'as une bonne cohérence.
Ouais. L'aspect général, la couleur, c'est assez beige grisé, parce que en fait, ils ont prévu que souvent, ben, tu peux faire tous tes efforts pour un super beau packaging extérieur. Le résultat, c'est que ça arrive un peu sali ça a traîné un peu partout et ça arrive avec des grosses traînées. Donc, c'est pas la peine de faire un joli rose poudré. Tu vas te prendre la tête et de mettre des gros pigments dedans pour au résultat avoir un truc sale. Donc là, c'est déjà traité, enfin, c'est déjà pensé aussi dans cet esprit-là. À l'intérieur, quand tu ouvres la boîte, donc c'est assez facile d'ouvrir la boîte du coup, puisqu'il n'y a pas tous ces scotch. La première chose que tu vois, à l'intérieur, c'est un poème qui est écrit, c'est une espèce de mantra ou un genre d'essentiel pour guider ta vie spirituelle. Ça veut dire que, en fait, tu vois, ça reste dans un esprit quand même super minimaliste. C'est les vêtements sont des essentiels, un vestiaire essentiel, et puis tu as un essentiel pour qui tu vois ça résonne en fait d'avoir un petit mantra comme ça. Quand tu vois ça, la première chose que tu vois c'est ça, et puis ensuite tu as un petit livret qui est personnalisé à ton nom. Bonjour Viviane, merci d'avoir de rejoindre la communauté et de rejoindre cette communauté de femmes remarquables, et puis tu as des portraits de femmes remarquables de la communauté. Avant même d'avoir touché les vêtements, tu as déjà créé un lien émotionnel avec la marque et la communauté. À l'intérieur, deuxième chose, tu as une enveloppe de réexpédition qui est prépayée donc en polyuréthane, léger, recyclable. Et puis après, tu as un premier plateau. Donc, c'est très Marie Kendo, tu vois. Chaque chose trouve sa place, pas de superflu. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans cette boîte.
C'est hyper bien pensé.
Avec des plateaux différents en carton compartimenté et superposés. Et donc, dans le premier plateau, tu as les éléments qui sont enveloppés, soit dans des petits sacs en tissu. Donc, par exemple, la ceinture est enveloppée dans un petit sachet en tissu, histoire que tu puisses le conserver chez toi, ou dans des petites boîtes en craft pour les bijoux. Et quand tu soulèves le plateau, en dessous, tu as une super jolie housse à glissière transparente, hyper soyeuse. Tu vois, tu as envie vraiment de... Enfin, c'est assez sensuel, entre guillemets, hein, on n'est pas non plus... Mais c'est une housse dans laquelle tu vas pouvoir ranger tes vêtements entre saisons, par exemple. Tu vois, c'est l'idée, c'est que tu vas quand même la réutiliser. Et tous les vêtements sont tenus ensemble dans cette housse par un très joli ruban. Donc, tu as vraiment l'impression que c'est un paquet qui est fait avec un maximum d'attention. Et sur chaque vêtement, tu as une étiquette qui t'indique comment le renvoyer et aussi comment le porter avec style, des idées de silhouette. Quand tu as tout vidé, t'es pas à la fin de tes surprises. Au fond de la boîte, c'est écrit. Pourquoi tu lis ça? Tu dois être vraiment attentive aux détails. C'est quelque chose qu'on a toujours su sur toi et qu'on a toujours aimé de toi. Donc, en fait, ça veut dire que on connaît nos clientes et on sait que justement, c'est ce qu'elles aiment, c'est ce qu'elles apprécient et on leur redit de cette manière. Donc, ça crée de la connivence, c'est très sympa. Et puis, une fois que tu as déballé ta boîte, en fait, elle se met à plat d'un geste, bah, comme ta repack, en fait. Et c'est pareil, elle peut être réutilisée. Alors, c'est évident qu'en tant que client, tu te sens quand même vachement plus valorisé par un emballage comme celui-là que par une boîte générique. Alors, le produit à l'intérieur...
Ouais, tu vis une
expérience. Oui, le produit à l'intérieur, c'est exactement le même. Hein. Mais la perception entre les deux exemples, elle est radicalement différente. Dans le premier cas, si tu prends une boîte générique, tu reçois un truc, une chose. Dans le cas de la fleur, en fait, tu as tous les attributs positifs de la marque, le souci du détail, une valeur élevée, une expérience de service exceptionnelle. Et c'est ça qui va transformer les clients en clients fidèles, en fait. Ça va marquer durablement les clients et c'est vraiment un ingrédient essentiel pour moi du marketing mix.
Très bien. Ça semble génial en théorie, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire l'effort supplémentaire quand on est une petite marque? Parce que ça doit coûter une fortune de faire un packaging sur mesure dans cet esprit-là.
Alors, pas forcément une fortune, mais ça demande effectivement pas mal d'investissement et d'investissement préalable. De toute façon, c'est considéré comme une dépense marketing comme les autres. Donc, à chacun d'équilibrer là où il veut faire ses efforts. Mais la réponse, c'est oui. Et là, vraiment, je te demande même pas de me croire sur parole. En fait, c'était confirmé par une étude scientifique. C'est Dotcom Distribution qui a commandé cette étude justement au docteur Vincent Deluise, qui est un prof au Yale Medical College, qui a publié cette étude d'ailleurs sur l'exécution et le déballage. Et cette étude a révélé que les emballages cadeaux entraînent des niveaux élevés de certains neurochimiques dans le cerveau, ce qui suscite l'enthousiasme et la confiance chez les consommateurs. Et les gens sont naturellement attirés. Donc, cette étude a montré que les gens sont naturellement attirés par les produits et les emballages qui sont beaux. En fait, c'est des stimuli visuels et tous nos sens sont, ça impacte notre perception. En revanche, les emballages neutres, ça suscite aucune réaction, enfin, très peu, voire aucune réaction. En fait, donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est impossible d'avoir un impact positif sur les décisions d'achat des clients sans tenir compte de la présentation du produit. Et puis, l'autre résultante, c'est que comme c'est un stimuli fort, en fait, et que ça suscite l'enthousiasme, du coup, spontanément, les clients ont envie de partager de manière irrésistible. Voilà.
Bien sûr.
Et du coup, ça participe à élargir ton public et à accroître ta reconnaissance de marque.
Donc, en construisant une super expérience autour du déballage, on peut vraiment aider la marque à communiquer.
Oui, très clairement. L'emballage, il faut le voir comme un support pour raconter son histoire. Si tu tires pas parti, le meilleur parti de l'expérience de déballage de ta marque, tu rates une excellente occasion de t'exprimer. Et en fait, l'emballage, c'est une preuve tangible de tes valeurs. En fait, le déballage, c'est dans la phase après-vente. Les clients ont déjà acheté. Donc, il n'y a pas de risque de passer pour un argument de vente, en fait. Ils ont déjà payé. Donc, à partir du moment où ils ont déjà payé, tout ce que tu fais, ça va rentrer dans la catégorie la plus importante qui s'appelle valeur ajoutée. Et ça montre que tu donnes de l'importance à tes clients et que tu interagis avec eux et donc que tu favorises la confiance. Et ça aussi, un élément très important de fidélisation. Et tu sais que dans le e-commerce, parce qu'on en parle depuis maintenant longtemps, en fait, c'est la fidélité sur laquelle on mise, en fait. C'est pas l'acquisition client. Du point de vue économique, on mise sur une relation à long terme. C'est beaucoup plus rentable que de dépenser à chaque fois pour repartir de zéro. Ça, c'est vraiment le sujet dont on parle à chaque fois. Mmh. Et la fidélité, ça consiste pas seulement à savoir si le produit ou le service est bon, même excellent. Ça, c'est dans le marché digital, dans le marché dans lequel on est, il y a des douzaines de marques aujourd'hui qui fabriquent probablement des produits qui sont aussi bons que les tiens. Mais oui,
bien
sûr.
Produits, hein.
Mais en fait, ce qui va faire revenir tes clients, c'est le facteur d'étonnement. C'est le petit plus qui va te distinguer des autres et de la foule. Et donc, il faut vraiment tirer profit de ce moment-là pour en faire une expérience unique. Et l'expérience de déballage, c'est vraiment, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. Tout le reste, ça peut être génial, mais c'est vraiment la petite touche sur le dessus, quoi. Et c'est aussi, comme tu disais, l'opportunité de devenir viral. Donc, effectivement, il faut être réaliste. Ça peut être cher de créer ce genre d'expérience, mais ça peut être cher si ton colis est vu que par une seule personne ou par un seul foyer, au maximum. Là, ça va être difficile de justifier le coût. Mais si tu peux être vu par des milliers de personnes, voire des millions de personnes, tu vois. Et c'est vrai que l'expérience qu'on appelle unboxing ou unpacking, j'ai jamais compris la différence entre les deux, hein, je pense qu'on peut dire l'un ou l'autre, c'est vraiment devenu un phénomène sur YouTube. L'ouverture de paquets, ça va du, je dirais, sur une échelle, du différenciateur au must-have. Et ça te donne accès à un public quasiment illimité.
D'accord. D'ailleurs, je me demande pourquoi les gens regardent les vidéos d'ouverture de boîte. Ça me rappelle mais ça me rappelle ma nièce qui regarde les ouvertures d'œufs Kinder, tu sais, sur YouTube. Elle en regarde des dizaines et des dizaines.
Fou,
ah, c'est hallucinant. Tu te dis, mais elle est hypnotisée par le truc. Et bon, alors a priori, il y a des gens aussi qui regardent ça, des gens plus grands qui regardent.
C'est le même principe, en fait. C'est l'idée d'ouvrir un cadeau de Noël. C'est hyper excitant. Et c'est l'anticipation de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est un moment que tu savoures en général. Et c'est vraiment une joie d'enfant. T'as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est de savourer le moment présent, le moment de le. Ah, tu vois. Et parfois, la boîte est parfois mieux que ce qu'il y a dedans, d'ailleurs. Et mais en fait, c'est vrai que ces dernières années, en fait, c'est passé d'un plaisir saisonnier Noël ou l'anniversaire à une vraie une mode en ligne, et même je dirais un outil marketing super puissant.
Mais d'ailleurs, c'est qui les gens qui veulent voir d'autres personnes ouvrir leur emballage de produits? Pourquoi ils veulent pas vivre l'expérience eux-mêmes?
Parce que, alors, il y a plusieurs raisons à ça, en fait. C'est une super question, mais je pense que c'est vraiment lié, en fait, aux nouveaux usages de comment se forme l'opinion globalement. Comment tu te formes ton opinion et tu prends un avis. On sait très bien combien pèse Internet aujourd'hui, pèse les médias sociaux. Et avant de recevoir ton produit physiquement, en fait, tu vas être aidé dans ton choix. Et c'est là qu'on voit que l'unboxing a un réel intérêt. Enfin, le packaging a un réel intérêt parce que, en fait, regarder des gens ouvrir des paquets, c'est pas simplement pour être excité avec eux de ce qu'il y a dedans, mais c'est aussi parce qu'ils vont te montrer, un, le produit, la qualité et la conception de l'emballage, le processus de livraison, tout ça, ça va participer, en fait. Et les auteurs des vidéos, tous les gens qui font des vidéos d'ouverture de boîte, je sais pas comment le dire en français, tu vois. ils font eux-mêmes super attention aux détails, donc ils vont avoir un regard qui est différent. Et les gens qui sont attirés par ce genre de détails, forcément, ils vont vouloir les regarder. Donc en fait, on peut voir tout ce qu'il y a dans une boîte. C'est super important pour l'abonnement, par exemple, encore plus pour l'abonnement, les modèles par abonnement. Et du coup, ça permet de comparer des produits similaires. Tu vois, aujourd'hui, bah, sur des abonnements, tu vas acheter ta nourriture pour animaux par abonnement et la recevoir tous les mois, c'est quand même un engagement financier. Eh bien, si tu veux comparer deux marques, voilà, tu tapes unboxing telle marque et telle marque, et puis tu peux comparer, avoir un avis. Et alors, ce qui fait que, en plus, du point de vue marketing, tu as les feedbacks aussi, tu as tous les commentaires. En dessous les vidéos, tu as les commentaires des autres aussi. Et les opinions des YouTubeurs, surtout ceux qui ont un grand nombre d'abonnés, du coup, pèsent. C'est vraiment des nouvelles discussions, en fait. Et avec la contrepartie qui peut aussi dissuader les clients d'acheter, d'ailleurs. Donc, en tant que marque, je trouve ça utile de suivre quelques influenceurs YouTube. Alors, influenceurs, entre guillemets, hein, qui se consacrent à l'ouverture des paquets. Et si jamais t'as la chance qu'ils ouvrent un de tes paquets, ben, il faut les remercier de l'effort fourni. Et s'il y a quelque chose qui cloche, ben, il faut essayer d'y remédier le plus vite possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces vidéos sont super populaires. Donc ça prouve bien que ça fait une partie, c'est une partie significative de l'expérience client. C'est devenu un genre entier sur YouTube avec des publics cultes, et une des meilleures chaînes pour nos auditeurs s'ils ont envie de voir à quoi ça ressemble ou qu'ils sont pas déjà fans, c'est Unboxing Therapy, 15 millions d'abonnés. Ouais. Tu connais?
Ça a l'air incroyable. Non, mais je viens de me connecter. Je viens de me connecter et ça a l'air mais complètement fou, quoi.
Ah oui, c'est à la chaîne.
Génial.
Ouais. Mais pour se faire connaître, c'est vraiment un bon parti pris auquel peu de monde pense. Je sais pas si certains acceptent les paquets, de déballer des paquets qu'on leur aura envoyés, ou s'ils gardent leur intégrité et ne déballent que ce qu'ils achètent. Il faudrait voir. Donc, j'ai regardé, du coup, j'ai regardé dans Google Sync with Google Stats, qui est toujours un bon moyen de vérifier les informations. Enfin, en tout cas, on vérifie avec Google, donc bon, voilà, Google Stats. Je me dis, mais combien de temps les gens regardent ça, en fait? Et figure-toi, figure-toi, la stat qui est donnée, c'est le temps que les gens ont passé à regarder des vidéos de déballage sur leur téléphone équivaut à regarder le classique des fêtes Love Actually plus de 20 millions de fois. J'ai trouvé ça très marrant comme stat. Bref, évidemment que ça peut te permettre d'atteindre des marchés nouveaux que tu n'aurais même pas pu atteindre autrement ou même pas, enfin que tu vas pouvoir découvrir grâce à ça. Et le déballage, c'est devenu une expérience tellement attendue dans l'industrie qu'il y a même des comptes Instagram comme Sync Testing, par exemple. Donc, Sync Testing, c'est une fille qui est VC à la base et qui a créé, qui est intéressée par les DNVB. Oui. Et tu connais ? Super chouette.
Tu m'en as déjà parlé. Tu en as déjà parlé, je crois, sur le podcast. Ouais.
Donc, elle a commencé sur Instagram en testant les produits des DNVB, à la fois du point de vue de la consommatrice, le sien, et du point de vue du fonds d'investissement. Et en fait, elle a même ajouté là-dedans donc l'unboxing, en fait, qui fait vraiment partie de l'expérience. Elle le teste du point de vue de la convivialité. Voilà. Et alors moi ce que je vous conseille c'est de jeter aussi un œil sur la page vidéo YouTube de Lumi. Donc Lumi c'est une boîte, une start-up toute récente qui s'est conçue dans l'écosystème et qui répond aux besoins des DNVB justement, qui conçoit et fabrique des emballages sur mesure. Elle est basée à Los Angeles. Elle a été fondée par Jessie Genette et Stéphane Angot qui est français d'ailleurs, il y a 3 ans. Et donc, ils font du ruban adhésif, des tampons, de la conception, de la fabrication de boîtes écologiques sur mesure, de l'ingénierie d'emballage, etc. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de faire en sorte que la fabrication soit aussi évolutive que le web. C'est-à-dire qu'ils peuvent être assez réactifs pour ajuster les packaging des marques en fonction des commentaires des clients sur les médias sociaux, tu vois. Et Lumi, ils ont un super blog sur lequel j'ai regardé d'ailleurs l'expérience de plein de marques d'ailleurs, c'est vraiment sympa, c'est bien fait, c'est super bien fait. Ça s'appelle Shipping Things et c'est justement Jessie Genette qui est assise à côté d'une boîte aux lettres géante et qui reçoit, donc elle simule le fait qu'elle reçoive une boîte d'une DNVB et elle la déballe sous nos yeux, elle fait ses commentaires et ça permet d'apprendre aussi les caractéristiques techniques, parce que pour tous ceux qui ne savent pas, qui arrivent dans le métier, pas toujours évident de choper le vocabulaire, donc ça va assez loin dans le vocabulaire technique, c'est plutôt pas mal. En France, il y a Pakitou qui propose des services relativement similaires en fait, où tu peux les interroger, c'est une plateforme en fait, et eux-mêmes vont essayer de te trouver le meilleur packaging le plus adapté. Ils ont mis un blog.
Ouais, je connais.
Tu les connais, tu les avais interrogés peut-être ?
Ouais, je les ai interrogés. Et on n'a pas poussé le truc jusqu'au bout, mais je pense qu'on le fera pour de futurs lancements de produits avec Réuni.
Ouais, c'est une bonne option quand on veut balayer tout le périmètre, avoir toutes les options possibles et pas y passer plus un temps infini, parce que toi, tu rédiges ton cahier des charges et même ils peuvent t'aider à rédiger ton cahier des charges, donc c'est assez simple. Et pour finir, je voulais parler d'une marque coup de cœur au sujet du packaging. Je pense qu'il ne faut vraiment pas passer à côté. C'est Cœur Paris. Tu connais Cœur Paris ?
Ouais, Eva Brandberg, elle a fait la même école que moi.
Exactement.
Donc, on a fait le studio berceau. Elle était juste un an avant moi. Donc, je la connais de vue, mais on ne s'est jamais rencontrés.
Écoute, c'est une fille, c'est un rayon de soleil. Donc, Eva, elle propose des vêtements brodés qui sont réalisés en tissu et en fil bio. Elle a appris à broder avec sa grand-mère, sa passion. Et elle a appris à broder avant de faire le studio berceau. Et justement, quand elle était au studio, elle a commencé à broder des cœurs pour son amoureux, et puis ses proches. Et tu vois, ses copines lui ont dit « mais mets ça sur Instagram ». Et donc, elle a commencé à les vendre un peu comme ça. Et en 2015, boum, elle fait une collab avec Sarah Endelman de Feu Colette, Regretter Colette. Et là, boum, sold out en 48 heures. Elle a dû reconduire les commandes de semaine en semaine. À partir de là, co-branding avec Uniqlo, American Apparel, Le Bon Marché, j'en passais des meilleurs. Et pour la petite histoire, elle a été portée par Hélène Pompeo, la Meredith de Grey's Anatomy. Alors j'en parle parce que Son succès repose évidemment sur ses broderies, ses petits jeux de mots qui sont très décalés. Genre, elle brode un t-shirt avec des frites et elle met gluten frites au lieu de gluten free. Mmh. Et le petit cornet de frites brodé. D'ailleurs, c'est Camille Chamou qui a porté ce t-shirt dans Premières Vacances. Et ces petits messages qui sont, il y en a pas mal qui sont des odes à la food. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, elle a un packaging super malin. Ses visuels fonctionnent avec des packaging qui sont issus de la food, en fait. Donc, elle a adapté en R&D interne, qui sont entièrement en papier ou en carton. Donc, par exemple, pour ce t-shirt gluten-free, il est enveloppé dans un carnet de frites en carton. Tu vois? Pareil, pour la boîte, pour l'œuf à la coque, elle utilise une vraie boîte à œufs. Elle a un t-shirt avec le t-shirt T-E-A, un sachet de thé. Il est empaqueté dans un maxi gobelet, etc. Et c'est vraiment super malin, c'est hyper visuel. Et si jamais, comme elle a remarqué qu'il y avait des clients qui recommandaient plusieurs fois, qui commandaient plusieurs t-shirts food en même temps, du coup, maintenant, elle propose un achat en menu. Tu vois, tu peux acheter ton menu burger frites. Et les clients, ils adorent, ils jouent avec ça, ils jouent avec les packaging. Tu vois, il y a des gens qui disent, moi, je veux le t-shirt burger frites, enfin burger, mais dans la boîte, emballé dans la boîte à pizza, par exemple. Et alors, elle expédie tout de l'atelier avec un petit mot qu'elle écrit à la main, un petit mot individualisé encore à chaque fois. Ses clients sont super fidèles. Elle fait 60% de son chiffre en digital et 40% en collab sélectif ou sur mesure, parce qu'elle fait aussi du sur mesure. Tu peux envoyer ton petit dessin et même ton vêtement à broder. Elle a un programme qui s'appelle Répare à cœur. Donc, encore, tu vois, en fait, toutes les marques qui sont hyper cohérentes comme ça, elles fonctionnent très bien. Il n'y a jamais de solde. Mais évidemment, il y a des pochettes surprises. Et
bien sûr.
Ouais, ça va avec. Voilà, la pochette surprise de ta nièce. Et pour moi, tu vois, cœur, la cohérence, c'est vraiment l'ode à l'amour et à la joie. Et si tu croises Eva, tu ne pourras pas me contredire. C'est tout elle, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Et elle sera au bon marché à partir du 25 octobre et jusqu'au 31 décembre avec ses brodeuses sur place. Donc, si vous voulez, vous pouvez y aller avec vos vêtements. Elle vous les brodera. Le jour où je l'ai rencontrée la semaine dernière, elle portait un pull en cachemire qu'elle a brodé elle-même. C'était super joli l'effet, super joli. Personnaliser un petit pull en cachemire Uniqlo par exemple, c'est hyper sympa. Voilà. Adrien, ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Donc en conclusion, n'oubliez pas, une grande expérience de déballage, c'est une expérience que votre client mourra d'envie de partager en ligne. Voilà.
Eh ben, trop bien. Écoute, on va faire machine arrière, on va enlever le repack et on va faire autre chose. Tu nous as démonté notre truc. Mais merci en tout cas. C'était toujours, comme d'habitude, très, très intéressant. Merci infiniment. Tu m'entends toujours? Je t'entends pas.
Ouais, je t'entends, mais j'étais en train de penser. On va faire machine arrière, on va enlever notre repack. J'étais en train de penser dans ma tête. Ensuite, l'enregistrement est complètement foiré, en fait. Repack, tu vois. Il faut recommencer. Non, garde ton repack. Je crois qu'il faut garder ses convictions, il faut tester. Ouais. L'important, c'est de tester et de s'ajuster au fur et à mesure et d'être hyper réactif, en fait, à ce que les clients veulent. Je pense que c'est une super idée, repack, si à l'intérieur, il se passe quelque chose.
Il y a autre chose.
Voilà, exactement. Tu peux travailler ton expérience et l'adapter à tes valeurs, à toi.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'était pour rigoler. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Non, au mois prochain.
Oui, au mois prochain, Adrien.
On se reparle dans 4 semaines.
Voilà, salut Viviane,
à bientôt.
Salut Adrien, ciao, bye.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.